VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour, bienvenue. En République démocratique du Congo, l'opposition dit non à la machine à voter et exige l'audit du fichier électoral. Ses principaux partis et regroupements politiques l'ont fait savoir hier à Kinshasa, où nous retrouvons pour les détails Thierry Kabundi de Top Congo FM, nos stations partenaires sur place.
Dans une déclaration commune lue au siège du mouvement de libération du Congo à Kinshasa, l'UDPS, le MLC, l'UNC, ensemble de Moïse Katumbi et Congo Nabisso de Freddy Matungulu contestent les chiffres publiés par la Commission électorale nationale indépendante le vendredi dernier sur le nettoyage du fichier électoral et exigent en même temps des mesures correctives pour garantir, selon eux, la crédibilité des résultats des prochaines élections. Félix Tshisekedi de l'UDPS, Eve Bazaïba du MLC, Jean Baudouin Maillot de l'UNC et Pierre Lumbi, l'ensemble de Moïse Katumbi expriment également leur rejet de la machine à voter au prochain scrutin pour notamment son caractère inconstitutionnel. Faisant allusion à la dernière déclaration de la commission électorale sud-coréenne, ils évoquent, je cite, le risque d'une fraude à grande échelle en cas d'utilisation de la machine à voter proposée par la CENI, fin de citation. Ces leaders de l'opposition invitent par ailleurs le peuple à rester vigilant, à ne pas céder à la manipulation et à sa prêté à exercer sans retenue son droit constitutionnel de changer démocratiquement le leadership de la République démocratique du Congo. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, Bangui, la capitale, a connu ces dernières 72 heures regain de violence après l'opération de désarmement menée conjointement par la MINUSCA et les forces de défense et de sécurité contre les groupes d'autodéfense du quartier PK5. 19 personnes, dont un casque bleu, ont été tuées et une cinquantaine blessées dans cette opération. Le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, Joseph Bindoumi, a qualifié cette situation de prévisible.
Avec cette possibilité de laisser les groupes armés se manifester sous tous les prétextes du monde devait aboutir à ce que nous avons connu au kilomètre 5. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Je ne connais pas le bilan exact, mais ce qui était sûr, c'est que tout cela était prévisible. Nous avons annoncé à plusieurs reprises qu'il fallait que les forces internationales qui sont ici en République centrafricaine, par la voie pacifique, contraignent les autodéfenses du kilomètre 5 d'arrêter de faire de la violence. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation considéré comme irréparable.
Comment expliquez-vous l'insécurité qui perdure en Centrafrique malgré la présence de 12 000 soldats des forces onusiennes?
Vous vous rendrez compte que ni les Nations Unies, ni leurs représentants en République centrafricaine par la MINUSCA, ni personne ne parle de la fin de la guerre en République centrafricaine. Tous les rapports, tous les discours vont dans le sens de PDR, feuille de route de l'Union africaine, signature des accords, dialogue possible, mais tout le monde contourne le vrai problème qui est de tout mettre en œuvre pour que la guerre en République centrafricaine cesse. Le kilomètre 5 compte environ 3000 commerçants. Et tous les matins, le groupe d'autodéfense récolte chez chaque commerçant une somme de 5000 francs par jour. Avec cet argent, ils achètent des armes, ils entretiennent des hommes et ne sont pas prêts à ce que la paix revienne dans cette zone du pays. Nous avons dit au gouvernement de la République que la meilleure façon, c'était sans aller par la violence, me faire comprendre à ceux qui font le mal que personne n'est d'accord avec eux. Mais malheureusement, on a caressé le mal dans le sens du poil et aujourd'hui, les conséquences sont ce que nous connaissons sur le terrain.
Aujourd'hui, Monsieur le Président, le chef d'État dit que la population est prise en otage face à cette situation. Est-ce votre avis?
C'est le peuple centrafricain qui est pris en otage. Quand vous prenez un pays comme le nôtre, quand vous dites que votre armée est sous embargo, les résolutions pour renouveler l'embargo de 2020 sont déjà sur la table prêtes à être rendues publiques en 2020. Et quand on se rend compte que la formation de nos troupes sort par compte-goutte, quand on dit qu'il faut qu'on dote ceux qui sont déjà formés en armes pour défendre les populations, alors vous comprenez que personne ne veut pas qu'on sorte de l'état dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, à Batangafo, à Karabandoro, à Bria, à Ndélé, à Bangassou, les populations centrafricaines sont en otage parce que les conditions qu'on pose à notre gouvernement et qu'on l'oblige à accepter sont des conditions qui ne sont pas de nature à ramener la paix en République centrafricaine.
Joseph Bindoumi, le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, interrogé par Félicie Passy Zembrou. Au Sénégal, le procès inédit d'une trentaine de djihadistes présumés se poursuit. Les prévenus continuent de défiler à la barre. Une femme a reconnu avoir été au centre d'importants mouvements de fonds provenant de Boko Haram. Abdourahmane Dia.
Koumbagnan, 34 ans, épouse d'un Sénégalais accusé d'avoir combattu aux côtés de Boko Haram, a révélé à la barre qu'elle recevait de l'argent des djihadistes. Avant de partir pour le Nigeria, Mortar Diohane m'avait confié de l'argent, a-t-elle affirmé. Elle a assuré avoir remis sur instruction de son époux de l'argent à des proches de ce dernier, confirmant les dires de notre prévenu Ibrahim Diallo, qui a indiqué mardi devant la barre avoir reçu d'elle 22 000 euros à son retour du Nigeria. Selon le parquet, lors d'une perquisition à son domicile près de Dakar, 14 500 euros ont été saisis dans sa chambre, en plus de documents relatifs au djihad. Mère de trois enfants, Koumbagnan est une des deux épouses de Mortar Diohane, un des principaux prévenus de ce procès inédit au Sénégal. Au total, 29 personnes, dont un imam et trois femmes, sont jugées pour actes de terrorisme par association de malfaiteurs, par menaces ayant pour but de troubler l'ordre public, financement du terrorisme et blanchiment de capitaux. Le Sénégal, qui compte plus de 90% de musulmans, a été jusqu'à présent épargné par les attentats djihadistes qui ont frappé d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, mais il a renforcé la sécurité devant les hôtels et de nombreux bâtiments publics après les attentats dans la région.
En Côte d'Ivoire, c'est ce jeudi qu'a lieu la rentrée solennelle du Sénat, une première dans l'histoire du pays. Mais cette institution ne fait pas l'unanimité. Le Sénat ivoirien va siéger à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative, et sera dirigé par l'ancien Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Dans les rues, les avis divergent sur l'instauration de cette nouvelle institution.
Personnellement, je me dis que les députés, peut-être qu'ils font le même boulot que le Sénat, c'est ce que je me dis, mais je ne connais pas réellement quel est le rôle du sénateur.
Dans tous les pays développés, il y a toujours un Sénat. Moi, je dis personnellement, c'est bon. Ça permet l'évolution. Bon, le Sénat, pour moi, c'est bienvenu. On verra ce que ça va apporter.
Moi, je pense que c'est un peu trop parce qu'il y a tellement d'institutions et que ça, encore le président du Sénat, il faut le payer à des millions. Entre nous-mêmes qui sommes là, les gens, on n'en a pas. Les salaires, il n'y a pas. Acheter de l'huile, ça coûte cher. Même les médicaments, c'est compliqué. Bon, on peut au moins faire des économies avec ça un peu.
Israël s'est figé pendant 2 minutes aujourd'hui pour marquer la journée de la Shoah en mémoire des 6 millions de victimes juives du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. À 10 heures précises, 7 heures GMT, les automobilistes sont descendus de leurs voitures, les autobus se sont arrêtés, de même que les piétons qui se sont recueillis dans les rues. Les élèves et étudiants ont marqué les 2 minutes de silence dans les établissements scolaires. La veille, lors d'une cérémonie au mémorial de l'Holocauste, Yad Vashem à Jérusalem, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti l'Iran, son ennemi juré, de ne pas tester la détermination d'Israël. À Washington, il est 7:48.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et les derniers rebelles dans la ville de Douma, ultime poche insurgée dans la route orientale près de Damas, ont remis leurs armes lourdes, tandis que leur chef a quitté la zone en direction du nord de la Syrie. Par ailleurs, le Kremlin a assuré aujourd'hui que le canal de communication entre militaires russes et américains au sujet de leurs opérations en Syrie, destiné à éviter les incidents, était actuellement actif, alors que Washington a menacé de frapper le régime de Damas. Un gouverneur de district afghan et au moins 6 policiers ont été tués aujourd'hui dans l'attaque du siège du gouvernorat par les talibans qui ont revendiqué l'opération, la première depuis plusieurs semaines, ont indiqué des responsables locaux. D'autres bilans rapportés à l'AFP font état de plus d'une douzaine de morts dans cette attaque qui a duré plus de 3 heures dans la province de Ghazni, dans le sud-est de l'Afghanistan. Et puis, Pékin a affirmé aujourd'hui que les promesses du président Xi Jinping d'ouvrir davantage les marchés chinois étaient sans rapport avec les frictions commerciales avec les États-Unis, insistant qu'il n'existait actuellement aucune négociation entre les deux pays à ce sujet. Le porte-parole du ministère chinois du commerce, Gao Feng, a fait preuve ce jeudi d'une rhétorique plutôt très offensive, fustigeant au passage le protectionnisme de Washington. Jean-Roger Billon à ce micro, prochaines infos. Les prochaines infos, c'est dans 50 minutes exactement et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.